Note sur l'épître de Jacques, recueillie dans des réunions d'études. Article du Messager évangélique de 1910. Chapitre 2. Mes frères, n'ayez pas la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur de gloire, en faisant acception de personne. Car s'il entre dans votre synagogue un homme portant une bague d'or, en vêtements éclatants, et qu'il entre aussi un pauvre en vêtements sales, et que vous regardiez vers celui qui porte les vêtements éclatants, et que vous disiez, « Toi, assieds-toi ici à ton aise », et que vous disiez au pauvre, « Toi, tiens-toi là debout », ou « Assieds-toi ici au bas de mon marchepied », n'avez-vous pas fait une distinction en vous-même, et n'êtes-vous pas devenus des juges ayant de mauvaises pensées ? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres quant au monde, riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Mais vous, vous avez méprisé le pauvre. Les riches ne vous oppriment-ils pas, et ne sont-ce pas eux qui vous tirent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui blasphèment le beau nom qui a été invoqué sur vous? Si en effet vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez le péché et vous êtes convaincu par la loi comme transgresseur. Car quiconque gardera toute la loi et faillira en un seul point est coupable sur tous. Car celui qui a dit « Tu ne commettras pas adultère », a dit aussi, tu ne tueras pas. Or, si tu ne commets pas adultère, mais que tu tues, tu es devenu transgresseur de la loi. Ainsi parlez et ainsi agissez, comme devant être jugés par la loi de la liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas usé de miséricorde. La miséricorde se glorifie vis-à-vis du jugement. Mes frères, quel profit y a-t-il si quelqu'un dit qu'il a la foi et qu'il n'est pas d'œuvre? La foi peut-elle le sauver? Et si un frère ou une sœur sont nus et manquent de leur nourriture de tous les jours, et que quelqu'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas les choses nécessaires pour le corps, quel profit y a-t-il? De même aussi la foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte par elle-même. Mais quelqu'un dira, « Tu as la foi, et moi j'ai des œuvres. Montre-moi ta foi sans œuvre, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Tu crois que Dieu est un, tu fais bien. Les démons aussi croient, et ils frissonnent. Mais veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte ? Abraham, notre père, n'a-t-il pas été justifié par des œuvres, ayant offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Et l'Écriture a été accomplie qui dit, « Et Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté à justice. Et il a été appelé ami de Dieu. » Vous voyez qu'un homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Et pareillement Rahab aussi, la prostituée, n'a-t-elle pas été justifiée par les œuvres, ayant reçu les messagers et les ayant mis dehors par un autre chemin? Car, comme le corps sans esprit est mort, ainsi aussi la foi sans les œuvres est morte. Verset 1er. Mes frères, n'ayez pas la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur de gloire, en faisant acception de personne.
Jacques montre qu'il ne faut pas avoir la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur de gloire, en faisant acception de personne. Impossible de posséder cette foi du Seigneur de gloire, humilié et pauvre lorsqu'il était ici-bas, en faisant des distinctions et en tenant compte de la grandeur que le monde apprécie. Versets 2 à 4.
Car s'il entre dans votre synagogue un homme portant une bague d'or en vêtements éclatants, et qu'il entre aussi un pauvre en vêtements sales, et que vous regardiez vers celui qui porte les vêtements éclatants, et que vous disiez « Toi, assieds-toi ici à ton aise », et que vous disiez au pauvre « Toi, tiens-toi là debout », ou « Assieds-toi ici au bas de mon marchepied », n'avez-vous pas fait une distinction en vous-même, et n'êtes-vous pas devenus des juges ayant de mauvaises pensées ?
La mention de la synagogue tient à une habitude de langage juif. Elle désigne ici le lieu où se rassemblaient les croyants, car synagogue veut dire réunion, assemblée. Celui qui fait une distinction entre le pauvre et le riche devient juge ayant de mauvaises pensées, car il juge selon les principes du monde qui cherche sa gloire dans les choses d'ici-bas. Cette distinction vient de la chair. Il ne doit y avoir de séparation que vis-à-vis du monde. En Jude, ceux qui se séparaient eux-mêmes étaient dans le mal tout en vivant au milieu des saints. Verset 5.
Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres quant au monde, riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime ?
Dans ce verset, Jacques attire l'attention de ses frères bien-aimés sur le fait que Dieu agissait tout autrement qu'eux. Il avait choisi les pauvres quant au monde, riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. Dieu ne saurait que faire de la grandeur de ce monde. La vraie grandeur et les vraies richesses sont en lui. Ceux qui n'ont rien ici-bas les reçoivent le plus facilement et deviennent riches en foi, possédant tout ce que la foi donne maintenant, en attendant la gloire future. Versets 6 et 7.
Mais vous avez méprisé le pauvre. Les riches ne vous oppriment-ils pas, et ne sont-ce pas eux qui vous tirent devant les tribunaux ? Ne sont-ce pas eux qui blasphèment le beau nom qui a été invoqué sur vous ?
Au verset 6 et 7, il s'adresse à une autre classe de personnes.
Mais vous avez méprisé le pauvre.
C'est le même vous qu'au chapitre 5, verset 1.
À vous maintenant, riches, pleurez en poussant des cris à cause des misères qui vont venir sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les vers. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille sera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme le feu.
En pratique, il gardait le caractère juif qui avait méprisé le Seigneur, venu ici-bas dans la pauvreté, pour enrichir le croyant des biens célestes. Christ est souvent présenté comme le pauvre. Psaume 40, psaume 41, etc. Ce même terme caractérise le résidu, et les croyants juifs étaient le résidu d'alors. Bienheureux les pauvres en esprit, les débonnaires, ceux qui sont persécutés, etc. C'est à eux qu'est le royaume des cieux, est-il dit en Matthieu 5. D'autre part, c'était parmi les riches, selon le monde, que se trouvaient les persécuteurs des chrétiens, blasphémant le beau nom du Seigneur de gloire qui était invoqué sur eux. Versets 8 à 12.
Si en effet vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez le péché et vous êtes convaincu par la loi comme transgresseur. Car quiconque gardera toute la loi et faillira en un seul point est coupable sur tous. Car celui qui a dit « Tu ne commettras pas adultère » a dit aussi « Tu ne tueras pas ». Or, si tu ne commets pas adultère, mais que tu tues, tu es devenu transgresseur de la loi. Ainsi, parlez et ainsi agissez, comme devant être jugé par la loi de la liberté.
Celui qui aimait son prochain faisait bien, il accomplissait la loi royale, la loi par excellence, le résumé de toute la loi. Aimer Dieu et son prochain, mais faire exception de personne n'était pas aimer son prochain comme soi-même, c'était être transgresseur et tomber sous le coup de la loi de Moïse. Car quiconque faillit en un seul point est coupable sur tous, ayant méconnu l'autorité de celui qui a donné la loi tout entière. Verset 12.
Ainsi parlez et ainsi agissez, comme devant être jugés par la loi de la liberté.
Trois lois sont mentionnées dans cette épître, la loi de la liberté, la loi royale et la loi de Moïse. La loi royale se lie à la loi de la liberté qui accomplit cette loi royale. Le nouvel homme seul peut accomplir ces lois parce qu'il possède la nature divine et le don du Saint-Esprit. Il est en pleine liberté pour accomplir la pensée de Dieu. Un homme réveillé sous la loi ne le pouvait pas, car il ne possédait pas cette liberté. Le chrétien doit agir selon sa propre responsabilité et ses privilèges. Il doit agir et parler comme devant être jugé par la loi de la liberté et non pas transgresser la loi de Moïse pour être jugé par elle. Verset 13.
Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas usé de miséricorde. La miséricorde se glorifie vis-à-vis du jugement.
Le croyant doit donc parler et agir comme devant être jugé d'après la loi de sa nouvelle nature, la loi de la liberté, qui, tout en étant l'expression de la volonté de Dieu, est l'expression de ce que cette nature aime. Il faut marcher selon cette mesure et juger selon cette loi qui introduit le principe de la grâce. Car si l'on juge selon la chair, le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas usé de miséricorde. Le Seigneur a dit lui-même :
Soyez donc miséricordieux, comme aussi votre Père est miséricordieux. Et ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Acquittez, et vous serez acquittés. Car de la mesure dont vous mesurerez, on vous mesurera en retour.
Luc 6, versets 37 et 38. La miséricorde se glorifie vis-à-vis du jugement. C'est ce que Dieu a démontré à la croix, d'une manière parfaite. Et cela établit le principe d'après lequel nous avons à agir, car, tout en maintenant le principe du gouvernement de Dieu, ce passage affirme celui de la grâce. Versets 14 à 17.
Mes frères, quel profit y a-t-il si quelqu'un dit qu'il a la foi et qu'il n'est pas d'œuvre? La foi peut-elle le sauver? Et si un frère ou une sœur sont nus et manquent de leur nourriture de tous les jours, et que quelqu'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas les choses nécessaires pour le corps, quel profit y a-t-il? De même aussi, la foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte par elle-même.
Dans la première partie de ce chapitre, la foi et l'amour pratique sont en contraste avec les préférences charnelles. Ici, Dieu nous montre que les œuvres sont inséparables de la foi. Il est inutile de dire « j'ai la foi » là où mes œuvres ne le prouvent pas. La foi sans œuvre ne peut sauver. Parce que, pour être sauvé, il faut la foi qui produit des œuvres sans lesquelles elle est morte. Il n'est pas question, ici, de la foi qui nous justifie devant Dieu. C'est l'enseignement de l'apôtre Paul. Mais de ce que cette foi, par laquelle le croyant est justifié, doit produire devant les hommes. Car si, devant Dieu, nul homme n'est justifié par des œuvres de loi, devant les hommes, nul ne peut être justifié sans œuvre de foi. La foi n'est pas visible, Dieu sait si elle existe chez un homme. Mais pour que d'autres le sachent, elle doit se manifester par des œuvres qui en sont le produit. Sinon, la foi est sans profit pour celui qui prétend l'avoir, malgré toutes les paroles qu'il pourrait dire. Versets 18 à 20.
Mais quelqu'un dira: Tu as la foi, et moi j'ai des œuvres. Montre-moi ta foi sans œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Tu crois que Dieu est un, tu fais bien. Les démons aussi croient, et ils frissonnent. Mais veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte?
Sans œuvres, il est donc impossible de montrer sa foi. On peut croire que Dieu est un, tous les Juifs le croyaient, mais cette conviction ne découlait pas de la foi vivante. Les démons le croient aussi, et ils frissonnent. Cela ne change rien à leur condition. L'homme qui se contente d'une telle foi est vain, sa foi est morte. Combien facilement, hélas, on se contente d'employer des expressions correctes de la vérité, sans que la marche pratique y corresponde, même dans le cas où l'on possède la vie de Dieu. Versets 21 à 23.
Abraham, notre père, n'a-t-il pas été justifié par des œuvres, ayant offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Et l'Écriture a été accomplie qui dit, « Et Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté à justice, et il a été appelé ami de Dieu. »
Pour montrer que, devant les hommes, il faut des œuvres pour justifier la présence de la foi, Jacques se sert du même passage par lequel Paul, dans le chapitre 4 des Romains, établit que l'homme est justifié, devant Dieu, par la foi, sans œuvre de loi. Abraham crut Dieu. Cela lui fut compté à justice, est-il dit. Cette écriture fut accomplie lorsque Abraham offrait son fils en sacrifice. Là, il fut justifié par ses œuvres. Au chapitre 15 de la Genèse, Abraham crut Dieu lorsqu'il lui disait des choses que la raison humaine ne pouvait comprendre. Dieu le lui compta à justice. Dans ce moment-là, Abraham ne fit aucune action qui prouva qu'il avait cru, mais Dieu vit sa foi. Au chapitre 22, il fit une œuvre qui découlait de sa foi et était l'accomplissement de ce que l'Écriture avait dit au chapitre 15. Sa foi fut ainsi rendue parfaite ou complétée, et, par cela, il fut appelé l'ami de Dieu. Ésaïe 41, verset 8.
« Et toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, semence d'Abraham, mon ami. »
Dieu l'appelle son ami parce qu'il avait agi d'une manière conséquente avec sa foi, en montrant par sa conduite le prix qu'avait pour lui la parole de Dieu. En Jean 15, le Seigneur appelle les disciples ses amis. Il donne sa vie pour eux, les traite comme tels, en leur communiquant les paroles qu'il avait ouïes de son Père, ce qu'un maître ne fait pas avec ses esclaves. En retour de cela, eux devaient montrer qu'ils étaient ses amis en lui obéissant. L'Éternel parlait avec Moïse comme avec son intime ami lorsque, en vue de lui, il se sépare du camp souillé. Exode 33, versets 25 et 26.
Et pareillement, Rahab aussi, la prostituée, n'a-t-elle pas été justifiée par les œuvres, ayant reçu les messagers et les ayant mis dehors par un autre chemin? Car, comme le corps sans esprit est mort, ainsi aussi la foi sans les œuvres est morte.
Jacques cite encore l'exemple de Rahab. Elle avait entendu parler des jugements exercés sur les nations de l'autre côté du Jourdain. Elle avait cru au Dieu des Hébreux, puis, quand les espions vinrent, elle montra sa foi en les recevant. Les œuvres de la foi, ce que Dieu appelle les bonnes œuvres, se distinguent de celles qui peuvent s'accomplir sans la vie de Dieu, en ce que souvent elles sont le contraire de ce que la nature exige. Abraham est un père qui va tuer son enfant. Rahab trahit sa patrie. Œuvre répréhensible pour les hommes, mais approuvée de Dieu, qui voit en elle les fruits produits par sa parole dans le cœur. Ce sont ces œuvres-là que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles. C'est par elles que nous rendons témoignage, quoi que les hommes puissent en penser. Dans tout le raisonnement de ces passages, Jacques prend le professant sur son dire. Il ne cherche pas à en examiner la valeur, il n'en juge que par les fruits. Quelqu'un a illustré par un exemple l'enseignement de Paul et de Jacques sur la justification. Un propriétaire veut avoir dans son jardin un poirier d'une excellente espèce. Le jardinier Paul lui en fournit un et le plante. Un jour, il reçoit la visite du jardinier Jacques et lui montre son poirier en le lui vantant. Jacques dit : « Je ne sais pas si c'est un bon poirier. » Paul, répond le propriétaire, « m'a assuré que c'était véritablement l'excellente espèce que je désirais. » Jacques réplique : « Quant à moi, je ne connais l'arbre qu'à son fruit. »